Bernard Lannes, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes également céréalier ainsi qu'éleveur de volailles dans le Gers. Pour débuter notre entretien, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron. C'était donc mercredi après-midi au marché de Rungis.
Stopper la guerre des prix, c'est stopper la dévalorisation permanente du revenu des agriculteurs. C'est leur permettre de vivre, ou plutôt de revivre, de leur travail. Et quand vous avez des produits alimentaires en promotion permanente, vous n'avez plus la notion de prix. Et donc, plus rien n'a de valeur. Pour ce faire, je souhaite que nous puissions acter quelques décisions concrètes. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production.
C'est donc à partir du coût de production que les transformateurs et les distributeurs ajouteront leur marge pour obtenir le prix final et non plus le contraire. Il était temps, Bernard Lannes, qu'on essaie de redonner le juste prix aux agriculteurs.
Oui, il est vraiment temps parce qu'on a des crises successives qui, de toute façon, nous emmènent dans une crise agricole catastrophique parce qu'on n'a pas vu ça depuis presque après-guerre. 70% des exploitations, on les compte dans le rouge. Un paquet d'agriculteurs quittent le métier et on n'avait aucune visibilité jusque-là. Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il va changer, inverser le sens de la négociation, c'est une bonne chose. Mais dans ce principe-là, il y aura aussi des règles à respecter parce que, vous savez, dans cette chaîne entre l'agriculteur et le consommateur, la semaine dernière, on était à Paris devant l'Assemblée nationale pour porter des baguettes de pain aux députés pour leur dire, voilà, dans 1 euro de baguette, il y a 3 centimes de blé sorti ferme. D'entre les 3 centimes et 1 euro, l'ensemble de la filière a travaillé avec des coefficients multiplicateurs et donc gagne sa vie. Il y a des salaires, il y a des meuniers, il y a des boulangers. Et nous, à 3 centimes, on est la seule catégorie sociale nécessaire et pour faire cet aliment-là qui perd de l'argent. Je remets 2 centimes de plus sur ce blé-là, je couvre mes coûts de production. Et bien sûr qu'avec le marché, si je l'organise, je dois aller au-delà pour avoir un prix rémunérateur qui me permette d'avoir un salaire et de rémunérer mes capitaux pour avoir une durabilité avec mon métier.
Comment comprendre justement que des agriculteurs qui aiment pourtant leur métier, qui le font avec passion, n'arrivent pas à en vivre dignement ?
Ben, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, chaque année, depuis plusieurs années, on a toujours le même cirque qui se met en place, c'est-à-dire la négociation des prix avec des lois qui encadrent tout ça, et où on a en face des distributeurs et des transformateurs qui essayent de trouver un arrangement. Il y a des arrangements qui se faisaient à travers de la contractualisation, mais dans cette affaire-là, et c'est bien ce que dit Emmanuel Macron, c'est que quand on fait toujours de la politique des prix bas, quand on se sert de la viande de porc pour faire un prix d'appel, pour attirer les gens au supermarché, quand on a de la publicité qui fait croire qu'il y aura toujours moins cher, ben le consommateur est perdu, et à travers ça, quand, dans les négociations, quand le distributeur veut faire un anniversaire, et ils en ont toutes les semaines des anniversaires, ben il part d'un prix qu'il fixe pour faire un produit, et il dit au transformateur, voilà, il va falloir me faire ça, et le transformateur, ben lui, se retourne sur l'agriculteur, qui sert généralement de variable ajustement. Et c'est ça qu'il faut stopper.
Alors Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il légiférait par ordonnance pour rééquilibrer les contrats commerciaux entre agriculteurs et distributeurs, à condition que vous réorganisiez les filières de production, ça va dans le bon sens ?
Ça va dans le bon sens, parce que de toute façon, nous sommes favorables à des contrats qu'on appelle double bipartite. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire que l'agriculteur fait un contrat avec un transformateur, et le même transformateur fait un contrat avec le distributeur. Mais si jamais, en cours de contrat, un révise les conditions, l'agriculteur peut sortir du contrat et ne se retrouve plus pieds et poings liés dans ce qu'on appelle une filière, parce qu'en fait, il aura signé des engagements entre 5 et 10 ans, notamment ce qu'on connaît dans le lait ou dans des arrêts ultra périssables, où l'agriculteur est fragilisé parce qu'en fait, si on ne lui prend pas son produit immédiatement, il ne peut pas s'en débarrasser.
L'autre décision d'Emmanuel Macron qui était très attendue, c'est celle de relever le seuil de revente à perte, c'est-à-dire le prix minimum en dessous duquel les distributeurs n'ont pas le droit de vendre. Cela en fait dépendra de chaque filière et ne devrait concerner que les produits alimentaires. Vous étiez quasiment tous les acteurs d'accord sur cette proposition. C'est vous d'ailleurs qui l'avez soumise lors des états généraux de l'alimentation.
Oui, c'est nous, coordination, qui l'avons amené depuis longtemps, parce que, en fait, c'est remettre d'une certaine façon, mais à l'époque, on avait des prix d'intervention, c'est-à-dire qu'on décrétait qu'il ne fallait pas le vendre en dessous d'un certain seuil. Là, c'est-à-dire à la grande distribution, bon, ben voilà, vous allez faire des contrats, donc en filière, on va s'organiser, puisque quand même, le but, c'est d'être vendu via de la distribution, qu'elle soit grande ou petite, mais avec la grande distribution, il faut qu'il y ait donc des contrats, ces contrats double bipartite, et dire à la distribution, ben vous allez faire un effort, vous, pour prendre un peu moins de marge. Et c'est là où, quand on voit Leclerc avec l'UFC choisir monter au créneau en disant « Oh là là, ça va faire monter les prix chez les consommateurs », faux, ça ne va pas faire monter les prix chez les consommateurs. Parce que si on met aussi une transparence intégrale de la marge, et que je reprends mon blé à 3 centimes avec 1 euro de baguette, il y a dedans largement de marge à re-répartir, que l'on peut renvoyer un peu sur la production, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on ira chercher ce qu'on appelle vulgairement maintenant du minerai alimentaire dans le monde entier pour toujours tirer les prix vers le bas. Donc c'est ça un peu la révolution, mais l'idée est bonne. Maintenant, Emmanuel Macron a parlé d'ordonnance et de le faire passer par la loi, mais tout ça, ça prendra 8 mois. Et je reste bien. C'est pour ça que nous, coordination, nous restons très vigilants, parce qu'on sait très bien que derrière, les marges ne se partagent pas facilement dans le commerce.
Le juste prix, ce serait quoi pour vous ?
Ah ben le juste prix, de toute façon, c'est simple. Hein. Ce sont les coûts de production, parce qu'aujourd'hui, on a tous les organismes, et Emmanuel Macron l'a rappelé, c'est-à-dire que l'Observatoire des prix et des marges existe, et il faut lui donner les moyens intégraux pour aller chercher les vrais coûts, parce qu'il y en a certaines de cachées, notamment dans la distribution et dans la transformation, pour que derrière nous, de toute façon, on ait donc les coûts de production plus les frais de distribution sont sur réserve de plancher, sachant que juste après, c'est dans un marché organisé où se trouve ce qu'on appelle, nous, les prix rémunérateurs, c'est coûts de production, plus salaire, plus rémunération des capitaux, et avec une lisibilité à moyen et long terme, parce que l'agriculture, on ne peut pas la faire tourner dans tous les sens.
Alors justement, vous parlez de l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans l'agroalimentaire. Je vous propose d'écouter son président, Philippe Chalmin.
Le problème, c'est que derrière cette idée de juste prix, de prix rémunérateur, etc., bah, on a tendance à regarder dans le rétroviseur. À une époque où effectivement ce genre de questions ne se posait pas, parce que nous avions la politique agricole commune, nous avions des systèmes de garantie de prix, tout ceci a disparu. Alors il est peut-être un peu tard que ce sont souvent les mêmes d'ailleurs qui critiquaient la politique agricole commune et qui maintenant pleurent des larmes de crocodile en regrettant qu'elle ait disparu. Maintenant on n'y reviendra pas. Et donc, et on ne peut pas isoler les marchés agricoles français du reste de l'Europe et même du reste du monde. Donc il y a quand même un principe de réalisme. Et ce principe de réalisme, on peut quand même, sans aller jusqu'à au juste prix, au prix rémunérateur et tout ce que vous voudrez, on peut considérablement améliorer le sort des agriculteurs en rentrant dans des logiques, je pense notamment au secteur laitier, de contractualisation un petit peu de long terme, et en étant capable d'établir des rapports de confiance. S'il est une chose qui manque dans ce monde de l'agroalimentaire français, et même au sens large des relations commerciales en France, c'est bien l'absence totale de confiance.
Bernard Laine, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre ?
Moi, je suis entièrement d'accord pour aller sur la confiance, mais à condition qu'on nous remette aussi en main un outil très simple, c'est-à-dire la traçabilité intégrale, celle-ci, dans l'étiquette. Bien sûr que ça sera un combat avec l'agro-industrie, mais il est très facile de faire avec un QR code et un smartphone. Je peux rentrer dans le site de l'agro-industriel qui a fait des produits élaborés, notamment des plats cuisinés, dont certains bénéficient du drapeau français tout en ayant de la matière première qui vient des quatre coins du monde, mais en mettant donc cette traçabilité intégrale, et tout citoyen qui aura un peu de temps peut aller sur le site, envoie la liste à la Prévert de tous les ingrédients, et bien sûr que l'industriel ne donne pas sa recette, mais je veux savoir tout ce qu'il y a dedans. Et pour les scandales que l'on a vus récemment, et notamment les œufs au fipronil, on pourrait voir qu'on a des œufs qui viennent de Pologne, qui ont été cassés par une casserie qui est du groupe Terena, qui est une coopérative française, et qu'on se retrouve avec du fipronil à la fin, parce qu'en fait, ben oui, là on retrouve les marques de distributeurs de tous les supermarchés, parce qu'on voulait, entre autres, de la madeleine, en disant je veux pas une madeleine, je veux un prix pour faire cette madeleine pour mon anniversaire, ce que je disais précédemment, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, qui prend ? J'ai un trader hollandais qui dit, moi j'ai des œufs qui sont en Pologne, ces œufs on les amène dans une casserie de groupe Terena qui va casser des œufs pour faire des ovoproduits après utilisables de façon industrielle. Et dans tout ça, eh bien, de toute façon, on voit bien qu'on n'a pas utilisé des œufs français, qu'on n'a pas mangé du blé français, et que tout ça, on pourrait le réguler. Donc, confiance, oui, parce qu'en fait, moi, je le dis toujours, celui qui doit régler à la fin, c'est le consommateur.
Je retiens les mots transparence, traçabilité et donc confiance. Est-ce que vous avez confiance dans ces états généraux de l'alimentation et de ce qui va en ressortir ?
Moi, je ne suis pas naïf. On est pragmatique, on a confiance. Donc, la charte qui va être proposée, moi, je l'ai dit en sortant, nous la signerons parce que c'est un canevas et c'est avec des protections pour aller vers le législatif. Emmanuel Macron, lui, il doit faire les règles. Nous, on doit continuer à se mettre autour de la table pour justement, nous, agriculteurs, côté agriculteurs et syndicats, défendre cette vision où on doit pouvoir retrouver notre marche dans cette affaire-là. Et oui, pour l'instant, oui, mais bon, conscient, mais pragmatique. Malheureusement, c'est ce qu'on a mis dans notre communiqué, les agriculteurs ne doivent pas espérer de l'argent sonnant et trébuchant rapidement. Il faudra au moins une campagne de plus pour avoir les premiers effets.
Un grand merci, Bernard Lane, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.